Bonjour à tous, merci d'être là si nombreux, surtout vu la concurrence sur la scène d'à côté. Nous allons donc parler de production de jeux vidéo indépendants. J'ai avec moi donc pour ça Martial Brard du studio M-Zone de Pornic, Alain Puget du studio Alchemy Games de Nantes et Laurent Lemoine du studio Amplitude à Paris. Pour commencer, histoire que tout le monde... Alors, on va faire ça de manière très interactive, c'est-à-dire que pour parler de la production de jeux vidéo indépendants, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de savoir ce que vous voulez savoir sur le sujet. Mais avant de commencer ça, les questions, on va commencer par un petit tour de présentation. Vous voyez bien dans quel contexte s'inscrivent nos trois invités. Alors, on va aller dans l'ordre. Vas-y, Martial, donc présente un peu qui tu es et ce qu'est M-Zone.
Alors, bonjour, donc, je suis Martial Brard, je suis le gérant de la société M-Zone Studio, qui est à Pornic, pas très loin d'ici. C'est un studio qui existe depuis 2001, donc on a 13 ans, 14 ans bientôt. Avant ça, moi, ça fait 25 ans que je fais du jeu vidéo. J'ai commencé en 1900, au siècle dernier, en 1989. Et puis, je suis notamment passé par une société qui s'appelle Cryo Interactive. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a été une des grandes, un des gros studios français, une grosse boîte qui est malheureusement disparue depuis. Et donc, du coup, j'ai pris mon indépendance et en 2001, j'ai monté un studio. Donc aujourd'hui, au bout de 13 ans, on est une quinzaine de personnes dans le studio, à géométrie variable, ça dépend, on peut monter à 20, on est descendu en dessous, donc ça dépend un petit peu des productions. Et on produit environ une douzaine de jeux par an, sachant que au début de l'existence d'M-Zone Studio, on produisait des gros jeux d'aventure, type on a travaillé sur Égypte 3, on a travaillé sur les Atlantis, etc. Donc du gros jeu d'aventure, qui s'est complètement arrêté en 2009. En 2009, il n'y avait plus de jeux d'aventure, terminé. Et donc on a dévié notre production plutôt sur de la production graphique pour du casual game et notamment du Hidden Object qui est aujourd'hui une grosse partie de la production mondiale de casual. Contrairement, on parle beaucoup de jeux comme Candy Crush, etc., et des petits jeux d'action, mais en fait une des grosses un des gros pôles en fait de production, c'est ce qu'on appelle les OPA, les HOPA, Hidden Object, Puzzle Aventure. Donc voilà, on s'est lancé dans cette aventure en 2009, et puis depuis, on produit à peu près 10-12 jeux par an. Voilà. En gros, je vais m'arrêter là pour le moment, on reviendra après.
Bonjour, donc Alain Puget, je suis le gérant du petit studio Alchemy. Donc nous, beaucoup plus petite structure que M-Zone, on est 4 personnes actuellement. On existe depuis 5 ans demain, enfin officiellement en tout cas. Moi ça fait une douzaine d'années on va dire que j'ai commencé mon périple dans le domaine du jeu indépendant. Je suis parti avec un groupe d'amis en essayant de monter ça de zéro et en sachant pas faire grand chose. Et en fait j'ai appris sur le tas, j'ai appris mon métier. Je suis repassé par des agences web de communication plus traditionnelles. Et puis, en fait, le projet Alchemy, lui, est né en 2009. On a sorti un premier jeu en 2012. Alors, pourquoi autant de temps s'est écoulé entre le début de la société et la sortie du premier jeu? C'est qu'en fait, on a, pour minimiser les risques, puisqu'on pourra en parler, du risque que représente économiquement la production des jeux vidéo indépendants, pour minimiser les risques, on a un modèle économique qui nous permet de nous autofinancer entièrement, ce qui fait qu'on fait en gros moitié prestation dans le domaine de la pub et moitié production de jeux vidéo interne. Donc à l'issue de la sortie de ce premier jeu, on pourra en reparler aussi, qui nous a valu des problèmes juridiques avec notre éditeur, on a enchaîné sur un deuxième projet qui commence un peu à émerger aujourd'hui, qu'on présente d'ailleurs ici au salon. Et donc voilà, on est sur la production de notre deuxième jeu. La société a très progressivement grandi au cours des années. On a commencé à 2, maintenant on est 4. Et donc on suit notre petit bonhomme de chemin en s'autofinançant et en avançant à notre rythme sur notre jeu, enfin sur nos jeux. Voilà.
Laurent ?
Bonjour, merci pour l'invitation. Donc je suis Laurent Lemoine, je suis chef de projet à Amplitude Studio. Donc Amplitude Studio a été créé en début 2011 par des anciens d'Ubisoft qui ont ensuite recruté autour d'eux pour sortir essentiellement des jeux de stratégie. Endless Space, et là on vient de sortir Endless Legend, qui est un jeu de stratégie fantastique, et aussi un petit jeu à côté, Dungeon of the Endless. Alors pour mon parcours, j'ai une formation de biologiste, j'ai traîné quelques années dans le milieu, bon paquet d'années, dans le milieu du jeu de rôle papier, jeu de société, jeu de cartes. Puis j'ai décidé de reprendre les études pour me réorienter vers le jeu vidéo. Et c'est dans le cadre d'un stage de fin d'études que je suis entré à Amplitude lors de la création de la société. Donc la société s'est créée sur les fonds des fondateurs et des amis. Et puis après, on s'est lancé dans le bain de la création de jeux vidéo.
Juste, tu peux parler de la taille d'Amplitude aujourd'hui ?
Oui, alors maintenant on est 36, ce qui fait une assez grosse structure quand même. Mais on reste indé.
Voilà, donc c'est un gros studio indépendant. Alors peut-être avant de passer aux questions, juste pour définir encore un peu plus le périmètre, je vais tenter une définition de développeur indépendant. Vous allez me dire si je me trompe ou si vous avez des précisions à apporter. Est-ce qu'on peut dire qu'un studio est indépendant à partir du moment où il produit des jeux sans passer par un éditeur ou sans que le jeu soit une commande d'éditeur ? Est-ce que ça se résume à ça ?
Alors dans ce cas, on n'est pas un studio indépendant.
Voilà. Donc.
Voilà. Donc nous, en fait, on travaille principalement avec un éditeur. En coproduction, donc on définit un sujet sur lequel on va travailler, on définit un budget en conséquence, et le budget pour développer le jeu, et à partir de là, donc ça c'est associé à une prestation, on va dire, on va réaliser le jeu, et à partir de là, le jeu va générer des royautés, et jusqu'à un certain cap, nous toucherons des royautés à partir du moment où les minimums garantis, c'est-à-dire ce qui a été versé pour le développement, a été atteint. Donc au-delà de ce cap, forcément l'éditeur d'abord se rembourse de ce qu'il a mis, puisqu'il a quand même financé le jeu. Et ensuite, au-delà des MG, on se répartit les royautés. Donc, dans ce cas, est-ce qu'on est considéré comme un studio indépendant ? Je pense que oui, parce que malgré tout, à part s'auto-financer intégralement, on reste libre de nos choix de création, libre de nos choix de clients, d'éditeurs, etc. Ça ne nous empêche pas de faire aussi des travaux pour d'autres éditeurs. Donc voilà, donc c'est, dans ce cas, je considère qu'on reste des studios indépendants, enfin un studio indépendant.
Je pense aussi, effectivement. Donc là, on va retenir la capacité, enfin le choix sur la création et puis le choix, effectivement, sur le financement et sur la diffusion du jeu, de travailler avec tel ou tel éditeur, mais pas d'être, effectivement...
attaché aussi, cet éditeur. Demain, on peut aller voir un autre éditeur avec un projet, etc. Et d'ailleurs, on a aussi autoproduit, autofinancé des grosses productions de jeux d'aventure, à l'époque où on en faisait encore, à plusieurs studios. Donc, comme quoi, voilà, on reste quand même un studio indépendant. Mais c'est quand même bien aussi d'avoir une vraie association avec un éditeur avec qui on commence à avoir un contrat de confiance, quoi.
Est-ce que vous pouvez parler de l'importance ou pas de justement cette indépendance par rapport à ce qu'on voit actuellement, habituellement dans l'industrie du jeu vidéo ? C'est-à-dire qu'on est quand même effectivement plus abreuvé de jeux, même si maintenant le jeu indépendant connaît une croissance très importante et une visibilité de plus en plus importante. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment un choix est-ce que c'est un choix par défaut ou est-ce que c'est un choix affiché, vital d'être dans ce cas de l'indépendance ?
Pour nous, il faut bien voir que donc, Amplitude ayant été fondée par des anciens d'Ubisoft, ils voulaient se lancer dans l'aventure des jeux qu'eux aiment faire. Et c'est venu un moment où ils avaient proposé des idées, mais qui n'avaient pas forcément été retenues chez Ubi. C'est aussi arrivé à un moment où c'est devenu beaucoup plus facile, je trouve, d'être indé. On a eu le moteur de jeu qu'on utilise, Unity, qui permet de sortir des jeux de bonne qualité. Et c'est aussi arrivé avec l'émergence des plateformes de vente dématérialisées. Donc Steam et des Azure et autres. Donc on a pu se lancer dans cette aventure parce qu'on est aussi arrivé dans un contexte qui le permettait.
Alain, sur le côté effectivement
ouais, alors nous,
indépendant.
C'est la volonté de bosser sur nos projets, nos envies, à notre rythme. J'ai absolument vraiment rien contre l'industrie justement non indépendante ou les jeux AAA. Je suis un gros consommateur de jeux AAA. Moi, c'est vraiment mon envie personnelle de faire les jeux que j'ai envie de faire en petite équipe, parce que travailler en petit comité, moi, ça me plaît. Et donc, du coup, voilà, on fait les choses qu'on a envie de faire comme on veut.
Ok. Et donc, pour revenir maintenant sur la question principale sur la production de jeux indés, bah c'est quelles sont les voies de financement que chacun vous utilisez pour produire vos jeux, puisque vous n'êtes pas effectivement dans le cadre de gros éditeurs qui vont financer l'ensemble des projets.
Bah moi, je l'ai un petit peu expliqué. Nous, on travaille, on se met d'accord avec un éditeur et on se met d'accord sur des budgets. Et en fonction de ces budgets, on développe.
C'est quand même de la coproduction. C'est vraiment.
Ça reste de la coproduction, oui.
C'est-à-dire que vous investissez vous aussi sur les projets que vous avancez.
Oui. Oui, c'est-à-dire on investit en temps homme,
en industrie,
sur ces projets. Voilà.
Donc nous, moi, comme je l'ai expliqué aussi, notre modèle, c'est l'autofinancement. Donc on fait de la prestation de services. Dans un domaine où il est un petit peu plus facile de gagner de l'argent que le jeu vidéo, enfin de mon expérience à moi, ayant travaillé dans des agences web, voilà, c'est des gens ou des structures à qui je sais parler, donc je sais comment elles fonctionnent. Du coup, comme le marché de la publicité, c'est un marché qui brasse pas mal d'argent, le fait d'arriver, de se positionner comme un prestataire expérimenté et de qualité, ça nous permet de générer suffisamment de bénéfices pour nous payer le temps qu'on passe à faire cette prestation et aussi le temps qu'on passe à faire notre jeu à côté. Le tout, après, c'est de trouver les bons clients avec qui ça se passe bien. Et l'autre aussi point sur lequel on a eu, nous, jusqu'ici, la chance en fait de pouvoir en profiter, c'est notamment les financements, les aides au financement de jeux vidéo comme le FHJV apporté par le CNC. Donc très succinctement, qu'est-ce que c'est le FHJV? C'est sous forme de subvention ou de prêt, ça dépend de la formule, où on va en fait présenter un projet de jeu à un comité d'experts, une commission de professionnels en fait du jeu vidéo, des membres de l'industrie française, qui étudient des projets qui sont soumis par des studios, qui doivent répondre à un certain nombre de critères, mais notamment qui doivent faire preuve de leur sérieux, de la crédibilité du projet et de leur stabilité économique. Et dans le cas où un dossier de ce type est accepté, on peut obtenir un financement qui correspond au maximum à 50% du coût de production du jeu. Donc nous, c'est une mécanique, un procédé par lequel on est déjà passé et qui a financé notre premier jeu et qui va aussi financer une partie de notre deuxième jeu. Voilà. Donc, ça ne nous exonère pas de trouver quand même une bonne partie, puisqu'il y a encore 50% qui est à notre charge. Voilà. Et puis après, nous, on a tenté l'aventure éditeur sur notre précédent jeu. Alors, c'était sur la fin de la production du jeu. L'éditeur n'a pas payé la production du jeu. Il se proposait de payer la communication autour du jeu, ce qu'il n'a pas fait. Et du coup, voilà, donc ça, c'était la troisième possibilité qu'on a essayé, qu'a priori on n'essaiera plus.
D'accord.
Et Laurent, oui, pour nous aussi, c'est l'autofinancement. Il y a eu cassage de tire-lire pour le premier projet, de la part donc des créateurs de la boîte. Demander également aux amis et puis à la famille d'aider au financement du premier projet. On a une aide également du CNC qui nous a permis d'apporter la touche finale à notre jeu. Et depuis, grâce au succès du premier jeu, on a réussi, ce qui n'était pas évident, à financer tout le reste de l'aventure Amplitude.
Globalement, pour un premier jeu, justement, parce que la première marche est finalement la plus difficile, une fois qu'on est lancé, si ça marche, tant mieux, et on peut poursuivre. La première marche, ça s'élevait à peu près à quel volume le financement de ND Space ?
Je n'en ai absolument aucune idée. Ça doit être aux alentours des 800 000, je pense. Mais bon, c'est pas une...
Non, mais c'est pour que les gens se rendent bien compte, justement, de l'effort à fournir quand on commence un studio, de produire un jeu et le faire en autofinancement complet, effectivement, il faut quand même aller chercher une somme, même pour un jeu... finalement, qui n'est pas ce qu'on appelait tout à l'heure, donc les jeux AAA qui vont coûter effectivement des budgets beaucoup plus faramineux, mais là on est quand même sur des sommes que.
Si je peux me permettre, Endless Space en termes de jeux indépendants, quand même, ça commence à tirer vers le gros. Hein.
Tout à fait, non mais tout à fait, bien sûr, mais c'est juste. Les budgets ne sont pas les mêmes. Et sur justement votre premier jeu,
vous avez des chiffres très précis.
Oui.
Moi je peux. Voilà, notre premier jeu nous a coûté. Enfin, le budget global du jeu de production, c'est 86 000 euros. Excepté l'enregistrement des voix et la localisation, je connais pas les chiffres là pour le coup précis, mais ça doit tourner dans les, on va dire, 10-12 000 euros, un truc comme ça. Donc le jeu a coûté en gros je pense un tout petit peu moins de 100 000 euros à produire.
Ah, et donc que vous avez financé quasiment tout seul,
moins le CNC, donc quand même nous, la part que nous on a financée était soulagée de moitié par le CNC, et puis après tout le reste c'est du bénéfice qu'on a généré sur nos prestations qui a été réinjecté dans la production du jeu.
Donc ça veut dire que l'équation travaille en prestations la moitié du temps, c'est ça?
Ouais.
Permet de financer en fait 100% du temps de travail des gens qui travaillent dans la structure.
Quand ça se passe bien, ouais.
Voilà.
Ouais. Non, mais c'est pareil. Après, tout est question de rythme auquel ça permet d'avancer, quoi. C'est juste si on générait plus de marge, on pourrait se permettre de proportionnellement de bosser moins. Déjà, on génère une marge qui est suffisamment confortable pour bosser la moitié du temps sur notre projet et la moitié du temps sur le reste. Ce qui est déjà pas mal. Mais voilà. Et puis après, bien sûr, ça ne l'a pas fait sur le premier jeu parce qu'on a eu des problèmes avec l'éditeur. Mais on espère aussi, un peu comme Amplitude, un jour avec notre premier projet qui fonctionnera économiquement, pouvoir aider le suivant, quoi. Voilà. Mais comme on est des petits gars super prudents, par contre, il y a des chances qu'on continue quand même la prestation à côté.
Martial, toi, les envergures de projets à peu près que vous produisez, quand tu dis que vous en produisez 10 par an, c'est quel type de budget ?
C'est très, très disparate. Ça va de, pour faire simple, ça va de 50 à 300 000. Ça dépend vraiment des projets. Il y a des petits projets sur lesquels on va passer quelques semaines, quelques mois. Et il y a des gros projets sur lesquels on va passer quelques mois à une année et demie. Bon, on est plutôt à avoir une tendance à descendre surtout sur des budgets en dessous de 100 000, parce que de toute façon, enfin, le calcul est simple à faire, hein, une quinzaine de personnes, produire 10-12 jeux par an, forcément, on aimerait bien être sur 12 fois 200 000, mais c'est pas le cas. Et puis on n'a pas les épaules pour ça, on n'a pas le staff pour ça, quoi. Donc oui, on est sur des petits projets entre 50 et 100 000. Donc voilà à peu près le genre de budget. Maintenant, actuellement, on est en train de travailler sur un projet avec Paul Cuisset. Voilà, on est plutôt sur un projet à 150-200 000. Parce qu'il y a une vraie com dessus. On a fait grossir un petit peu la profondeur du jeu, etc., par rapport à ce qu'on produit habituellement.
Et donc sur ces budgets-là, ce que vous apportez, donc vous, en industrie, c'est-à-dire en temps de travail homme, c'est quoi ?
C'est notre marge.
En proportion, c'est quoi ? C'est la moitié des budgets ?
Non, c'est moins que ça.
Moins que ça ?
C'est moins que ça. Mais en même temps, en contrepartie, on a des royautés qui sont relativement faibles. Donc voilà, on prend peu de risques. C'est-à-dire qu'en gros, on vend au prix de vente sans marge. Et par contre, tout ce qui sera gagné en royauté, ce sera pour nous, quoi. Voilà. Donc c'est... On prend peu de risques en faisant de cette manière. Sinon, on pourrait aussi dire, voilà, nous, on met la moitié du temps en production. Maintenant, si le jeu ne marche pas du tout, c'est autant de temps qu'on aura payé à ne pas gagner d'argent, quoi.
Ok, très bien. Donc, je vais commencer à prendre effectivement des questions. Donc, il y en a une devant. Le micro arrive.
Un, deux, voilà. Je voudrais un petit peu relancer le débat sur ton entreprise, Martial, sur... En fait, quand je regarde les deux compères qui sont à côté de toi, ils sont vraiment dans des boîtes où ils font vraiment le truc qu'ils aiment, qui leur tiennent à cœur, qui est vraiment quelque chose qu'on, voilà, esprit indé, on fait notre jeu, c'est mon bébé, etc. Et je me demande, alors peut-être tu vas me dire le contraire, mais j'ai l'impression que dans ta boîte, vu que c'est des hidden objects, des Facebook games, etc., est-ce que les mecs qui travaillent avec toi sont vraiment à fond, ouais, j'adore les Facebook games, hidden games, etc., ou est-ce qu'ils font ça parce que bah, ça marche, il y a peu de risques et au final on arrive à y vivre ou est-ce que tu as l'esprit indé aussi comme ça du c'est mes jeux, etc. Avec, vu que vous êtes avec un éditeur, j'ai l'impression que c'est pas le cas, mais tu as peut-être...
C'est le cas dans certains cas de jeux. Ils nous imposent aussi, ils ont des line-up et il faut répondre aussi à un line-up. Donc clairement, il y a des jeux sur lesquels ils nous choisissent des thèmes qui ne nous excitent pas plus que ça, c'est vrai. Par contre, il y a d'autres cas où c'est nous qui imposons le sujet et sur lequel ils adhèrent. Et là, on prend du plaisir. Maintenant, sur la question des gars qui sont chez nous et qui travaillent sur nos jeux d'Hidden Object, en l'occurrence, nous, on a quand même une particularité chez M-Zone, c'est qu'au départ, en fait, on était des prestataires graphiques. On fait vraiment de l'image. D'abord, c'est de l'image. Si vous allez voir sur le site, vous allez voir que tout est concentré là-dessus. Et du coup, en fait, je pense que ouais, les gars prennent leur pied à faire des images qui sortent, plutôt que d'aller travailler sur des gros triple A sur lesquels ils vont juste être chargés de faire la main du personnage et l'autre la tête du personnage. Là, il y a un vrai... Ils ont une vision globale sur le jeu, ils apportent réellement leurs pattes, etc. Et ça se sent d'ailleurs d'un jeu à l'autre. Quand c'est nos jeux qu'on porte, on voit bien que les graphes, ça coule tout seul. Quand effectivement, ce sont des jeux un petit peu imposés, là, en l'occurrence, le niveau s'en ressent très très vite.
Je peux garder le micro juste un petit peu ? Du coup, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Est-ce que pour toi, il n'y a pas plus... Quand on parlait tout à l'heure d'essayer de définir ce qu'est un studio indé ou pas, est-ce que ce n'est pas plutôt des projets qui sont développés avec l'esprit indé ou indépendamment ? Indépendamment. Et des projets qui, bah, du coup, sont de la presta. Parce que, par exemple, on pourrait avoir un studio indé. Enfin, Alain pourrait, plutôt que de faire de la pub, faire des jeux pour des boîtes, des jeux pub ou peut-être des choses comme ça, qui du coup sont des jeux vidéo mais ne sont pas de la production indépendante dans le sens où ils ont un éditeur et où c'est pas leur jeu, quoi. Peut-être que tu...
Effectivement, tu mets le doigt pile poil dessus. Finalement, nous on fait avec certains des jeux qu'on fait avec notre éditeur et qu'on fait un peu contraint et forcé, c'est exactement la même chose que la presta annexe. On a eu à une époque, on a fait un petit peu de muséographie, de la reconstitution historique, on a fait du film, on a travaillé pour des boîtes d'auto-école pour faire des simulations d'accidents, des choses comme ça, des petites vidéos. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis complètement justement de côté parce que, par contre, on voulait garder ce pipe production de jeu. Et c'est pour ça qu'en fait, on a mis vraiment une partie production de jeux alimentaires, pour être très honnête, et puis une partie jeux sur lequel on met nos billes, on a envie d'avancer, on s'investit. Et sachant qu'à côté, du coup, on a sorti toute cette presta externe de la société. Voilà. Donc, oui, tu analyses bien le truc, parce que c'est exactement à pareil qu'Alain, sauf que nous, on le fait dans le jeu, intégralement dans le jeu.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, là. Le micro de l'autre côté.
Est-ce que vous cherchez un stagiaire game designer première année en alternance ou alors à temps plein à partir de mi-juin ? Par pur hasard, bien sûr.
Par pur hasard, non.
Non.
Pour l'instant, non.
C'est... Ouais. Pour nous aussi, on vient de sortir nos deux productions en cours. Donc on est un peu au creux de la vague. Au niveau de la production, c'est de jeux vidéo, c'est vrai qu'il y a les besoins grandissent en fonction, enfin en milieu de production et sont moins importants en fin. Donc là actuellement c'est plutôt marée basse pour nous aussi.
Okay.
Oui, encore une question devant.
Du coup, je vais rebondir sur l'intervention de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez des écoles de jeux vidéo, des étudiants qui en sortent et de...
Attention aux questions.
Non, je trouve ça intéressant aussi aujourd'hui avec justement l'évolution. On a depuis quelques années maintenant, des dizaines d'années, des écoles de jeux vidéo. Et ça peut être critiqué ou pas. Et du coup, je voudrais avoir vos avis sur ces écoles, les étudiants et les boîtes face à ces étudiants, en fait.
Je vais commencer, puisque je suis sur la présentation, je suis un ancien étudiant d'une école de jeux vidéo, parce que je ne me sentais pas, après avoir fait des années de jeux de rôle papier, me pointer, frapper à la porte d'une boîte de jeux vidéo, et puis voilà, embauchez-moi. Donc j'ai repris les études, c'est dans le cadre de l'Engmin, qui est une école publique sur Angoulême, qui prépare un master. Et c'est grâce à ce parcours que pour le stage de fin d'études, j'ai réussi à mettre un pied chez Amplitude. Puisque eux, avec les fondateurs venant d'Ubisoft, ils ont aussi réuni autour d'eux des jeunes. Et on était au début de la boîte en avril 2011. Six anciens, il y avait six seniors d'Ubisoft et six stagiaires. Donc il y avait des gens de l'Engmin, mais également de Lizard Digital. Et actuellement, on a également maintenant dans la boîte des gens de Supinfo Game. Donc c'est plutôt une... Moi, je serais plutôt pour dire que c'est une bonne chose. Pour le côté de la formation, en tout cas à l'Engmin, la grande force, c'est de réunir des étudiants puisqu'il y a un recrutement au niveau master, donc des gens qui ont des licences ou équivalents de milieux différents. Donc on s'est retrouvé avec des gens qui avaient fait des études d'histoire de l'art ou d'histoire tout court, avec qui côtoient des ingénieurs, qui du coup ont une façon de penser, de parler différente. C'est assez sympathique à regarder, et surtout ça préfigure les équipes de production qu'on peut avoir après. Et donc la force de ces écoles, c'est de mettre en relation ces étudiants sur des projets étudiants, et je trouve c'est vraiment une expérience de ce qu'on peut vivre plus tard en équipe de prod. Donc on a les game designers qui ont les idées et comment les concrétiser, quelles sont les difficultés à avoir. Donc là-dessus, pour moi, ça a été une très bonne chose. Et on le voit sur les recrutements, sur les nouveaux recrutements qu'on a fait. On a pris des gens qui avaient déjà une expérience dans d'autres boîtes de jeux vidéo, mais également des étudiants. Typiquement, là, Dungeon of the Endless qui vient de sortir, c'est une core team de 4 personnes, aidée par les autres du studio. Mais il y en a deux qui sont qui sont venus pour leur stage de fin d'année et qui ont continué. Ça permet aussi de mettre de la fraîcheur parce qu'ils sont au contact de nouvelles formes, nouvelles idées, nouvelles tant techniques que sur la méthodologie, etc. Donc c'est plutôt pas mal.
Ce qu'il faut bien savoir effectivement, c'est que le jeu vidéo qui a maintenant une quarantaine d'années l'industrie du jeu vidéo était constituée que de gens qui n'avaient pas fait d'études de jeux vidéo, que ça n'existait pas. Donc c'est assez récent, finalement. Et toutes les structures qui permettent d'apprendre telle ou telle partie de la production de jeux vidéo, puisque c'est quand même un nombre de métiers assez important et très différent. Les écoles sont assez récentes, donc quoi, c'est une dizaine d'années. Et voilà, et donc on commence seulement finalement à voir vraiment beaucoup de gens issus, ayant fait des études de jeux vidéo, dans les studios de jeux vidéo. Des remarques, Alain ou Martial, sur la filière de formation ?
Moi j'ai pas forcément d'avis sur la question. En général, ça m'importe relativement peu en fait ce que les gens ont fait comme formation. Je suis pas un grand croyant des diplômes. Moi, à titre personnel, je suis pharmacien, pour de vrai. Hein. Et du coup, j'ai appris le jeu vidéo sur le tas. Ça m'a pris un certain temps. Hein. Et Et je suis plus intéressé par ce que les gens, par la motivation personnelle des gens, parce que en école, il y a des projets qui sont faits, des projets, souvent des projets de fin d'études en fait. Et si j'avais un reproche peut-être à faire aux formations françaises, mais après je sais pas si c'est pareil ailleurs ou pas, ce serait peut-être en fait de pas faire travailler des étudiants sur assez de projets différents. C'est-à-dire que souvent on les voit sortir et montrer dans leur portfolio, dans leur présentation, leur projet de fin d'études ou leurs deux derniers trucs, les deux dernières années, des projets un peu plus gros. Alors que moi, personnellement, si je devais faire une école d'enseignement de jeux vidéo, ce serait des game jams toute l'année et les mecs ils auraient 20 trucs à montrer à la fin de l'année, quoi. Moi, en général, les gens qui ont des profils qui m'intéressent, c'est plus ça peut être des gens qui viennent de ces écoles-là, mais c'est des gens qui ont fait des choses à côté, qui ont participé à des game jams notamment, et du coup, qui ont par leur motivation personnelle à côté montré qu'ils avaient plus à offrir que juste leurs petits camarades qui s'étaient entre guillemets contentés d'aller en cours. Et du coup, c'est souvent comme ça qu'on trouve les profils les plus intéressants. Voilà.
D'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'on voit sur certaines conférences, notamment relatives aux jeux vidéo, notamment GDC ou autres, où souvent ce que disent les game designers quand on leur pose des questions sur comment on fait pour devenir game designer, comment on fait pour faire du jeu vidéo, la question c'est faut pas se poser la question, et la réponse c'est faites. Tout le monde peut faire des jeux vidéo, tout le monde peut concevoir, etc. Donc il faut faire dès qu'on peut, commencer avec ce qu'on sait faire au début, et puis apprendre au fur et à mesure sur le tas, effectivement, c'est important. Et c'est vrai que du coup, même dans une structure de formation, juste prendre la formation de manière assez passive, finalement, et pas aller au-delà, c'est probablement une erreur encore plus dans le jeu vidéo, qui va être un univers de gens qui vont être passionnés, et donc où ceux qui vont réussir, en tout cas, seront ceux qui seront passionnés et où la concurrence pour les postes est assez rude et où les salaires ne sont pas mirobolants. Donc, en plus, ce n'est pas très gratifiant. Donc, il faut vraiment être très motivé, ce qui veut dire, effectivement, travailler au-delà de juste l'enseignement qu'on peut trouver. Martial, vous avez beaucoup de gens issus de...
Oui, on n'a pas beaucoup de gens issus des écoles. Moi, je voulais juste apporter une petite précision. Nous, on est plus orienté sur les graphes, donc la production visuelle. Et j'ai été longtemps très très en colère après les écoles pour la production graphique, je nommerai pas les écoles,
non, mais les écoles d'art appliqué,
des etc. écoles d'art appliqué qui formaient aux jeux vidéo ou à l'image de synthèse ou à la 3D et tutti quanti. Ça commence à aller un petit peu mieux. Moi, il y a quand même une chose qui m'importe quand je vois un CV, c'est pas le CV justement. Je me fiche de savoir que la personne travaille sous Maya, sous Blender ou sous 3DS Max. Ce qui m'importe, c'est qu'il fasse des belles images. Et on oublie, je trouve que le jeu vidéo a apporté une technicité qui fait qu'aujourd'hui, on a juste oublié la créativité, le savoir composer une image. Et moi, je préfère recruter quelqu'un qui me fait une très belle image en collant des pattes sur un carton, comme on faisait quand on était gamin pour offrir à nos parents pour la fête des pères, mais qui fasse quelque chose de joli, plutôt que quelqu'un qui me fait une image moche sous Maya, mais par contre, il utilise tous les plugins. Voilà. Je vois que ça en fait rire certains, mais le problème, c'est que vous pouvez maîtriser un outil, tout ce que vous voulez. Si vous ne savez pas faire une belle image, vous ne savez pas faire une belle image. Donc, dans la partie visuelle, l'important, c'est de dessiner, et quand vous avez un peu de temps, après, vous dessinez un peu. Et là, vous allez vraiment commencer à produire des beaux visuels, quelle que soit la méthode.
Ok. Y avait une question là-bas, il y avait un micro qui était en route.
Oui, bonjour, je change un petit peu de sujet, mais on a vu Steam faire un pas vers les indépendants avec Steam Greenlight. Pensez-vous que les producteurs consoles Sony, Nintendo et Microsoft vont faire pareil, et l'indépendant a-t-il un avenir sur les consoles ?
Ils ont déjà commencé, assez violemment. Sony, PlayStation, ils ont déjà commencé à gravement tendre la main aux indépendants, de plein de façons différentes.
Microsoft avait déjà commencé il y a longtemps.
Ouais, avec Microsoft de façon Microsoft de façon plus ponctuelle, c'est-à-dire que de ce que j'en sais, Microsoft pour l'instant n'a pas vraiment de campagne extrêmement généralisée et de communication publique vraiment sur ce truc-là. Ils vont chercher les gens qui les intéressent en fait directement. Par contre, PlayStation et Sony avec PlayStation, c'est depuis plusieurs mois, c'est venez, on vous aime, venez chez nous. Bon, allez, même si vous n'êtes pas que chez nous, on vous aime bien quand même. Enfin, ça y est, ils ont commencé à bouger il y a déjà un moment.
Oui, pour Microsoft aussi, ils essayent de rattraper leur retard par rapport à Sony avec le nom d'un programme dont j'ai oublié. Mais là, typiquement, pour l'appareil Games Week, sur le stand Microsoft, Xbox One, il y a un coin indé. Donc on est présent, mais également un projet étudiant de Supinfo Game, Anarchute, de l'Anar Team. Donc ils commencent, là c'était pour mettre en avant les indés français de leur programme, mais ils commencent à essayer effectivement de rattraper le retard qu'ils ont pris par rapport à Sony, par rapport à ses effets d'annonce et autres.
D'ailleurs, chez Amplitude, du coup, ce programme avec Microsoft, ça consiste en quoi?
C'est apporter Dungeon of the Endless sur Xbox One. Donc on a reçu les dev kits et on est en train d'essayer de faire fonctionner le jeu dessus.
En gros, ils vous fournissent les dev kits et du support?
Il y a du support, oui. Mais on vient tout juste de finir la version PC, donc la version Xbox. On commence à regarder, on commence tout juste à mettre les mains dedans.
Ok, donc il y avait une autre question là-bas.
En fait, moi j'en ai deux, vu que d'un côté je suis prof en informatique, donc il y a eu un débat sur l'embauche tout à l'heure, donc on va commencer par poser la première question. À votre avis, les perspectives d'embauche dans votre domaine, est-ce que je tue tout de suite les étoiles dans les yeux des gens dans mon école, ou est-ce que je les laisse vivre et je fournis du terreau?
Alors, concrètement, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup chez les jeunes, de gens qui rêvent de travailler dans le jeu vidéo. C'est une industrie qui fait un peu rêver parce que les gens en sont consommateurs. Alors déjà, effectivement, j'enseigne aussi un peu et je vois la même chose. C'est vrai qu'il y a souvent une fausse idée qui est faite de l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire que vraiment produire des jeux vidéo, ça n'a juste rien à voir avec jouer aux jeux vidéo. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tuer les étoiles dans les yeux des gens qui en rêvent, mais c'est vraiment des métiers, comme on le disait tout à l'heure, où il faut vraiment être passionné et qui nécessitent un très fort engagement personnel. Donc les gens qui sont réellement motivés peuvent très bien travailler dans le jeu vidéo, parce que, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, vous voulez faire des jeux, bah aujourd'hui faites-les, c'est très facile. C'est-à-dire qu'il y a des outils accessibles à tous, Construct pour faire du web, Unity pour faire de la 3D et porter sur plein de plateformes, etc., qui sont très accessibles pour les indépendants, qui sont souvent gratuits ou en tout cas suffisamment dans leurs versions les plus limitées pour faire des projets. Et donc voilà, c'est les gens qui sont réellement motivés peuvent le faire. Est-ce que vous avez d'autres...
Par contre, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, c'est peut-être pas la meilleure solution. Parce que clairement, c'est pas une industrie, hormis quelques cas qu'on voit, mais c'est très rare. On gagne pas beaucoup d'argent dans le jeu vidéo, pour être très honnête. Après, voilà, si vous êtes motivé, je rejoins mon collègue, c'est que oui, il y a vraiment du boulot. Clairement, il y en aura toujours du boulot. Vous avez qu'à regarder sur la FJV, il y a les annonces d'emploi sur la FJV. C'est quand même un des postes, un des domaines dans lequel il y a le plus d'annonces par jour. C'est juste énorme.
Par contre, la FJV, c'est l'Association française pour le jeu vidéo, c'est un site internet qui regroupe toutes les news sur le jeu vidéo, la filière professionnelle, et effectivement qui a une section emploi très fournie.
Très très fournie. Mais par contre, voilà, c'est faut le faire en connaissance de cause, la passion d'abord.
Et effectivement, on peut peut-être rebondir juste là-dessus pour parler, mais on s'étendra peut-être après plus dessus. Mais oui, il y a aussi, notamment dans le monde indépendant, l'effet un peu attirant de tous ces gros succès. On a évoqué tout à l'heure Candy Crush et d'autres. Il faut savoir que les gens qui ont fait Candy Crush, ils en ont fait un jeu comme ça, et pourtant ils en ont produit des centaines, et il n'y en a qu'un qui marche. Avec cette envergure-là, les gens qui avaient fait Angry Birds à l'époque, Roxio, ils en étaient rendus à leur 40e jeu. Et il n'y a pas forcément de méthode pour ça. Et c'est souvent le hasard, souvent des circonstances, surtout sur du jeu casual, sur du petit jeu comme ça, sur des projets plus ambitieux. La qualité du jeu et le type de jeu va faire qu'il a déjà potentiellement un public. Mais voilà, donc faut pas non plus. Travailler dans le jeu, c'est pas jouer. Et le jeu vidéo, effectivement, on va pas faire. Un Angry Birds ou un Candy Crush juste comme ça parce qu'on a une super idée. Il y avait une deuxième question.
Exact. Donc, juste ici, vous rejoignez ce que je dis à mes étudiants, c'est bon. Je ne suis pas dans le faux. La deuxième est, depuis tout à l'heure, on parle outils, dessiner, c'est très bien. Est-ce qu'à un moment donné, la créativité, elle ne vient pas d'ailleurs et il ne faut pas la mettre sur le papier, par exemple? Et si oui, c'est quelle partie du boulot et ça prend combien de temps?
Je pense que Martial, quand il disait dessiner, il parlait papier aussi. Hein,
mais... comment ça, oui, bah, on est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'Unity, on parle de Blender, on parle de 3DS, on parle Maya, genre, voilà. Tout ça, ce sont des outils. Et on apprend à les utiliser. Le temps d'apprentissage d'un outil, c'est déjà énorme. Mais est-ce que apprendre à faire des choses qui ont un sens ludique, le fun factor, on va dire ça, donc un jeu qui va amuser les gens, c'est pas quelque chose déjà qui prend du temps avant?
Alors, si, bien sûr, la conception de jeux vidéo, c'est pas juste effectivement utiliser des outils, il faut avoir une idée. C'est là où ce que disait Alain tout à l'heure sur le fait pour les étudiants de faire des jams. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément, donc une game jam, c'est un concept qui existe depuis une dizaine d'années. Alors, ça existait dans d'autres domaines avant, mais dans le jeu vidéo, c'est populaire depuis une dizaine d'années. Ça consiste à se rassembler sur 48 heures, donc souvent sur un week-end, et à partir d'un thème, souvent, en 48 heures, de produire un jeu. Donc, du coup, on se retrouve avec l'aventure de la production d'un jeu vidéo condensée sur 48 heures, sur un week-end. Donc, il y a tous les problèmes se posent d'avoir une idée rapidement, de la mettre en production rapidement, de tester, de voir si effectivement c'est rigolo, si c'est intéressant à jouer, de planifier toute la production pour qu'au bout des 48 heures, on ait un truc jouable. Alors, c'est évidemment pas des jeux, vous attendez pas à des jeux AAA, mais si vous allez au stand jeux vidéo à l'entrée, là, vous allez voir, il y a les jeux de la Game Jam et des Game Jam des années précédentes qui sont présentés. On est souvent en phase de jeux tout à fait intéressants, de concepts intéressants, et c'est dans ce cadre, de ce type d'expérience qu'on va se retrouver effectivement confronté à une vraie nécessité de créativité très forte, même si c'est sur un temps très court. Et c'est quelque chose qui s'entraîne dans la créativité, la capacité à avoir des idées et à les mettre en place et à les tester. Après, effectivement, alors, pour regarder.
Juste un truc, ouais. La capacité à avoir des idées, ça, tout le monde l'a.
Mais ça s'entraîne. Ouais. Mais oui.
Par contre, la capacité à avoir de bonnes idées de jeux intéressants, c'est déjà beaucoup plus rare. Alors après, je dis pas qu'en fait, on peut s'entraîner à entraîner son cerveau à avoir de meilleures idées de jeux. Je suis pas sûr que ce soit possible. Par contre, on peut complètement entraîner son cerveau à élaguer tout ce qui est en fait de la divagation ou acquérir suffisamment d'expérience par le fait de faire, donc des game jams notamment, mais pas que. Donc acquérir l'expérience de voir ce qui ne marche pas ou d'anticiper ce qui ne va pas marcher, puisqu'il y a plein d'idées qui peuvent paraître excellentes comme ça quand on les a dans la tête et qui en fait dans la réalité ne marchent pas pour x ou y raison. Et au contraire, il y a des pitchs de jeux qui, honnêtement, sur lesquels on ne miserait pas 3 sous, et qui font des blockbusters monstrueux. Voilà. Il y a certains jeux, franchement, si vous les résumez en quelques mots, vous vous dites, non mais ça, jamais de la vie, ça va intéresser qui que ce soit. Eh bien, ça gagne des millions de dollars par jour ou par mois, enfin voilà, en microtransactions ou en abonnement. Donc, et cette capacité-là à détecter des bonnes idées, à les implémenter de la bonne façon, voilà. J'imagine que ça peut se théoriser. J'ai jamais suivi de cours sur le sujet. Moi, la façon dont j'ai appris et dont j'essaye de pratiquer ça, c'est en le faisant. Du coup, moi-même, je participe à des game jams. Mon métier, c'est de faire du jeu vidéo. Mais du coup, je participe à des game jams pour m'entraîner, pour être un moins mauvais game designer, pour pouvoir plutôt, quand je produis un jeu, me dire ah ouais, non, mais là, c'est pas la peine d'y passer 6 mois. En fait, on va dans le mur. Ça va faire rire personne, quoi. Enfin, voilà. Et ça, c'est un truc, je pense que c'est ça qui est le plus dur dans le game design. Et moi, à titre personnel, le seul moyen que je vois d'améliorer cette capacité chez moi, c'est de faire. Voilà.
Sachant que c'est important aussi de dire que là, pour le coup, jouer est assez intéressant. Si on ne joue pas uniquement en étant purement en consommation d'émotions ou de sensations, mais quand on joue et qu'on analyse un peu ce qui se passe quand on joue et pourquoi, on réfléchit pourquoi on trouve tel ou tel jeu intéressant, quelle mécanique nous a attiré dans ce jeu-là, quelle mécanique nous fait y revenir, ce sont des choses. Donc en fait, les gens qui game design en général vont avoir une culture de tout ce qui s'est fait ou de tout ce qu'ils ont pu pratiquer dans le jeu vidéo, et ça aide à être à la base de ce qu'on va, des idées qu'on peut avoir, qui vont être souvent des dérivations d'idées de choses qu'on a déjà vues ou de choses comme ça. Laurent, chez Amplitude, le processus créatif, du coup, est-ce que tu
peux
en parler un peu?
Au niveau des productions, on a une phase de pré-production sur lesquels effectivement nos game designers, mais aussi nos autres membres de l'équipe, peuvent apporter leurs idées. Ça passe pas que par l'outil informatique pour tester la validité d'une idée. Ça passe aussi par du prototypage papier. Donc on est là avec nos jetons à découper nos bouts de carton et puis voir un peu les mécaniques, si ça nous fait, si ça nous amuse ou non. C'est un côté que je retrouve du jeu de rôle, jeu de société. Donc du coup, on a toute cette phase avant, en amont, et puis quand on a le concept qui semble éprouvé, bah là, à ce moment-là, effectivement, on met en place les outils informatiques, commencer à faire un proto sous Unity ou un autre moteur, et voir ce que ça donne. J'ai un peu l'impression, quand on parle du côté jeu vidéo, qu'on voit ça comme un tout monolithique, et en fait, il y a plein de métiers différents. Il y a bien sûr les programmeurs, mais même au sein des programmeurs, il y a les programmeurs réseau, 3D, gameplay, intelligence artificielle. Pareil pour les game designers, il y en a qui sont plus sur la narration, d'autres qui sont plus sur la rationalisation, les chiffres, surtout pour un jeu de stratégie, ça reste important. Donc il y a pas mal de choses différentes et qui ont chacun, chaque corps de métier a ses propres outils, et c'est pas que par par l'informatique en tout cas.
Très bien, il y a une question là.
Oui, je vais revenir sur une partie peut-être un peu moins rigolote qui était, vous avez évoqué au début, qui est la partie financement. Vous avez évoqué donc deux manières de financer les jeux dans vos sociétés, le financement sur fonds propres, soit sur un ancien succès d'un jeu ou en sollicitant les amis, la famille, ou en coproduisant avec un éditeur. Vous n'avez pas évoqué le financement participatif type Kickstarter et compagnie. Qu'est-ce qu'il faut pour un studio indépendant, développeur de jeux vidéo, pour se lancer dans le financement participatif, et pourquoi vous ne l'avez pas fait ou évoqué ou tenté ?
Alors, moi, je peux en parler parce que c'est un truc auquel on réfléchit en ce moment. Alors nous, on l'a évoqué en interne, on ne l'a jamais évoqué publiquement. Pourquoi on ne l'a jamais évoqué publiquement ? Parce que de toute façon, on ne se lancera dans cette aventure que le jour où on aura une communauté. Parce que se lancer dans le financement participatif, c'est énormément de travail, c'est un investissement de temps colossal. De la même façon que j'ai parlé du financement par le CNC là, avec un dossier, c'est énormément de travail aussi, de création d'un dossier de ce genre-là. Donc le Kickstarter, c'est sans doute, j'imagine, encore pire. Et du coup, partir dans cette aventure-là alors qu'on n'est pas connu, qu'on n'a pas de communauté, c'est aller droit dans le mur. Donc il y a des problématiques à résoudre avant, et contrairement à ce qu'on peut penser, tout le monde ne peut pas juste se dire ah, mon idée est géniale, je vais en parler, les sous vont arriver et ça va se faire, ça va être trop bien. Ça marche pas comme ça. Donc si déjà on n'est pas capable de promouvoir son idée et d'avoir la base de personnes à qui la faire passer, il y a juste zéro chance que le crowdfunding arrive quoi. Donc c'est une option. Elle existe, il y a des gens qui l'utilisent, il y en a plein qui l'utilisent alors qu'il ferait mieux de préparer un peu plus le terrain avant. Et il y en a qui y arrivent très bien aussi. Après, il y a un facteur chance aussi un peu dans le crowdfunding, comme il y a dans la commercialisation d'un jeu ou dans le choix de comment on communique autour d'un jeu. Ça se prépare. C'est une option. Je ne sais pas si Amplitude, on a déjà pensé ou si ça pourrait arriver.
Non, on n'a pas voulu impliquer la communauté d'un point de vue financier, parce qu'on avait l'impression que ça brouillait un peu les cartes. Il y avait aussi un autre élément, c'est qu'on n'a pas de nom connu. Enfin, généralement, les gros succès Kickstarter sont associés à des noms connus. Il me semble que cette année-là, il a commencé à y avoir les premiers chiffres pour dire que la vague Kickstarter est en train de s'essouffler.
Oui, apparemment... Les chiffres annoncent quand même qu'il y a deux fois moins de budget et de projets par rapport à l'année précédente sur Kickstarter. C'est-à-dire que ça retombe un peu et les succès sont moins importants et surtout sont sur des budgets beaucoup plus raisonnables que les très gros hits.
Je t'arrête tout de suite. Raisonnable, ça c'est faux. L'énorme majorité des projets Kickstarter sont faits avec des projets qui n'ont rien à voir avec le coût de production réel.
Oui, c'est-à-dire que les budgets, effectivement, sont, quand je disais raisonnables...
Ils sont très inférieurs.
Voilà, les budgets sont plus bas et, effectivement, ne permettent pas de couvrir la production d'un jeu, contrairement à ce qui a fait connaître le financement participatif dans le jeu vidéo il y a quelques années où des très gros succès ont apporté des millions à des studios, ce qui leur permettait de couvrir intégralement la production d'un jeu. Martial, sur le financement participatif ?
Nous, on y a participé de manière un petit peu parallèle avec notre éditeur, justement, dernièrement sur Sujet 13, donc a été crowdfundé. On est arrivé tout juste à le financer. À titre vraiment personnel, on n'a pas de recul, effectivement, sur ces financements. Et quand on voit les gros succès, encore une fois, on parle de ce gros succès, mais on ne parle pas de tous les projets qui n'ont pas été financés. C'est bizarre comme d'un coup, tout se recentre sur un seul sujet, mais on oublie tout le reste. Moi, je n'ai pas très optimiste sur la pérennité du système du crowdfunding. Et je rejoins aussi Alain, qui disait que les financements qui sont envisagés sur ce type de projets sont complètement mais à côté de la plaque. Donc je ne sais pas en fait vraiment comment on peut imaginer que le crowdfunding devienne dans le futur un système de financement du jeu vidéo, un système stable et pérenne. Voilà. Je pense que malgré tout, il y a des éditeurs, et c'est pas pour défendre ma paroisse, mais s'il y a des éditeurs, c'est qu'il y a une réelle raison et qu'il y a aussi une chose. Moi, je suis donc pas un studio vraiment indépendant, on va dire, mais il y a aussi deux métiers, comme il y a des métiers de game designer, des métiers de développeur, etc. Il y a aussi un autre métier qui s'appelle le métier d'éditeur, qui est aussi de mettre en avant vos jeux. Vu le nombre de jeux qu'il y a aujourd'hui sur les plateformes, c'est un vrai boulot de mettre en avant le jeu pour qu'il soit vendu. Parce que en tant que studio indépendant, je ne vois pas comment je pourrais mettre en avant mon jeu. C'est bien beau de sortir le jeu, de le financer, mais après, il faut le maintenir. Si c'est pour qu'il fasse... il marche quelques jours, et on le voit, hein, nous, on a des chiffres qui tombent, les jeux, ils sortent, et très souvent, ça marche sur quelques semaines, et hop, après, ça redescend. Pourtant, on est sur des jeux qui plutôt tiennent dans la longueur, dans le temps, c'est-à-dire qu'on a des jeux qui ont 2-3 ans, et qui continuent de générer un peu de royauté, mais c'est un vrai boulot, toute cette partie marketing, et qu'un studio a du mal à intégrer, quoi.
Et du coup, ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait une campagne de financement participatif, au final, ça veut dire qu'on s'attache à faire ce travail-là en amont de la production du projet. C'est-à-dire que,
savoir si on va avoir un retour dessus, quoi.
C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de rassembler une communauté, comme le disait Alain, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir une communauté pour pouvoir espérer un retour positif d'un financement participatif. Et il est nécessaire d'avoir une communauté pour... du coup, de faire beaucoup de communication pour obtenir cette communauté. Donc c'est un gros effort également, c'est un vrai travail que sinon fait l'éditeur a posteriori dans le cas des jeux financés par un éditeur. Justement, sur le rôle de la communauté, je voulais revenir un peu sur Amplitude, qui a quand même une relation très particulière avec sa communauté, même si effectivement vous n'avez donc pas choisi de les faire intervenir en termes financiers, mais par contre vous avez quand même constitué une communauté. C'est aussi sur cette communauté que le succès d'Amplitude est bâti.
Oui, on a voulu faire participer la communauté au niveau du game design, sur des choix artistiques aussi du jeu. Donc on a mis en place une plateforme qu'on appelle le Games Together, où en fait on propose nos documents de design assez tôt dans la production pour avoir le retour de nos joueurs, de la communauté. Le gros avantage qu'on y voit, c'est que ça nous permet assez rapidement de voir si on s'est planté sur les idées, plutôt que se dire ok, le jour de la sortie, cette idée géniale qu'on avait n'a pas rencontré son public. Donc du coup, on mène nos documents de design sur nos forums, on discute énormément avec les joueurs qui prennent le temps de les lire, et on discute avec eux pour avoir du coup leur avis. Et on fait ensuite, tout au long de la production, on fait des votes: est-ce que vous voulez tel ou tel éléments de gameplay, ce qui nous permet nous aussi de faire un choix de priorité dans ce qu'on va développer, ce qui va intéresser le plus les joueurs, puisque c'est pour eux qu'on fait les jeux. Et on va jusqu'à leur faire faire tout un pan une nouvelle faction, par exemple. Donc nous, un jeu de stratégie avec différents empires, différentes races, et il y a une race qui a été entièrement, là dans le dernier, été créée par la communauté. Mais on garde notre vision du jeu. et toutes les suggestions qui peuvent y avoir, qui peuvent remonter de la communauté, doivent entrer dans cette vision. Donc effectivement, il y a pas mal d'animations, ça permet de créer une communauté autour de notre univers, parce que sur les trois jeux qu'on a sortis, ça se place dans le même univers des Endless. Et donc du coup effectivement ces gens nous suivent et là sur le dernier jeu qu'on a sorti on les voit, ouais, on a adoré, c'est vraiment quelque chose qu'ils mettent en avant. Pour nous ça nous a demandé des efforts à mettre en place et on est super content que du coup ça porte ses fruits.
Pour information, la communauté sur laquelle vous vous basez fait à peu près quelle taille?
C'est sur le forum, je crois qu'on doit être à 90 000 comptes ouverts, donc à discuter. Après, ça concerne, on va dire, une centaine de joueurs actifs qui regardent les documents, qui en parlent.
Qui sont dans l'interaction forte, quoi.
Voilà, c'est ça. On les rencontre également sur les salons, donc notre forum, également les forums Steam et autres, sur Twitter, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, mais c'est une vraie interaction parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est partir dans une direction et s'apercevoir, que ce soit l'accueil du public ou des journalistes lors de la revue, enfin lors des articles avec la fameuse note, que on s'est totalement planté et que c'est pour ça qu'on fait, on participe sur Steam à l'Early Access. Donc c'est mettre le jeu en amont. Le jeu n'est pas final, mais on a comme ça le retour de la communauté.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
Comment chacun vous faites pour avoir des joueurs? Parce qu'au final, c'est vraiment le plus important quand on fait un jeu, c'est que moi-même je suis dévindé et le plus important c'est que le jeu soit joué, quoi.
Bah, c'est ce dont on parlait à l'instant, donc c'est comment on constitue une communauté autour de son jeu.
Comment constituer une communauté, comment gérer sa com, comment vous, à chaque fois, vous avez fait, et quels sont les conseils que vous donnerez, astuces, ou trucs comme ça, ou anecdotes.
Allez, en 5 minutes.
Du coup, moi, je vais revenir toujours à la même chose, c'est que c'est un peu le boulot de notre éditeur, ça. Donc, on en discute, on choisit un thème, etc. Et on a un panel. Nous, en l'occurrence, c'est plutôt les femmes de 30 à 50 ans qui sont des joueuses, qui deviennent maintenant des joueuses core gamers. J'allais dire hardcore, non, quand même, pas exagéré, mais qui deviennent core un petit peu. Ça devient un petit peu plus. On a monté vraiment le niveau. Donc c'est une communauté qui est identifiée et voilà, on rentre dans des cases qui sont très très cadrées. C'est vraiment ça. On doit répondre à ce type de gameplay, à ce type de jeu, raconter une histoire, etc. Donc voilà, nous, l'identité, elle est connue, c'est Madame Michu, 30-50 ans, voilà.
Alain, sur la constitution de la communauté, comment vous, parce que vous êtes dans la phase de démarrage de cette constitution.
Nous, on apprend là. Concrètement, on a sorti notre premier jeu, on comptait sur l'éditeur comme Martial pour faire. Sauf qu'on est tombé sur quelqu'un de beaucoup moins honnête que l'éditeur qui travaille avec Amazon. Donc ça ne l'a pas fait. Maintenant, on le fait nous-mêmes et on apprend sur le tas. On présente notre jeu. Alors, on a très vite en fait, essayé de présenter le jeu dans une version jouable, montrable puis jouable. On sait, par exemple, on a montré le jeu la première fois, on l'a laissé jouer au public la première fois au Stunfest à Rennes au mois de mai dernier. On s'est rendu compte que les joueurs déjà accrochaient bien au petit noyau de jeu qu'on avait déjà et que le tableau des scores qu'on avait créé, que les joueurs venaient vraiment se tirer la bourre pendant le week-end pour jouer là-dessus. À la base, le jeu sur lequel on travaille actuellement, c'est pas du tout un jeu normalement dans l'esprit à leaderboard et à compétition. Et en fait, il s'avère que comme ça a bien marché pendant le festival, on a décidé, pour l'instant, pendant le développement, d'axer notre développement là-dessus pour permettre justement de séduire des joueurs et de les faire venir par le biais de la compétition. Et puis après, notre présence sur des salons, on essaye de contacter, on va progressivement contacter les médias. Mainstream, du milieu, et puis on va voir, mais on est en train d'apprendre en fait.
Voilà, je pense qu'il faut aussi beaucoup compter effectivement sur tout ce qui va être présentation
c'est
sur
énormément les salons. De travail. Hein, voilà.
On parle souvent de trouver des leaders d'opinion, en fait, trouver des Twitchers qui diffusent sur le jeu vidéo, qui vont diffuser ton projet, trouver des journalistes qui vont en parler, autre chose comme ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui s'est comme ça. Le temps qui nous était imparti est maintenant arrivé à sa fin. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours essayer de contacter ces personnes qui seront sur le salon, notamment Alain qui présente Drifting Lands, donc sur le jeu, sur son jeu sur le stand de jeux vidéo à l'entrée. Merci à tous.